Ghost in the Shell n'est pas la seule incursion du cinéma américain en terre japonaise, puisqu'il y a quelques semaines, Power Rangers, la version US du Tokusatsu, est aussi sortie sur les écrans français avant d'envahir le monde. Fabien, tu connais très bien la franchise. Est-ce que, avant de parler de ce film de 2017, tu peux nous faire un petit historique de ce qu'est Power Rangers?
Alors, donc, à la base, on a donc un type de super-héros japonais qui s'appelle le Super Sentai. Donc, ce sont des escadrons de combat qui est en fait une série dérivée de Tokusatsu qui a été créée en 1975 par Shotaro Ishinomori, donc le créateur de Kamen Rider, et produit par Toru Hirayama de la Toei. L'idée, c'était de créer un nouveau concept de super-héros. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait comme Kamen Rider, c'est qu'ils ont à la fois lancé un manga et lancé une série live en même temps. Et donc la première série, c'était Himitsu Sentai Gorenja, donc Goranger, l'escadron secret, qui était en fait la première série avec 5 héros en costume coloré. Donc, le rouge étant le chef, rose, bleu, jaune et vert. Goranger a eu énormément de succès. Et du coup, ils ont lancé d'autres séries avec des escadrons de combat comme Jacka, Battle Fever J, puis ensuite on a eu d'autres séries plus tard dans les années 80 comme Denziman, Bioman, Liveman. Donc le Super Sentai continue aujourd'hui, donc 42 ans plus tard. Et ça continue toujours de très très bien marcher au Japon. Ça passe le dimanche matin sur TV Asahi. Je ne me souviens plus du nom de la dernière saison, je crois que ça s'appelle Kyonger. Enfin, bon, c'est un truc qui se passe dans l'espace avec 9 héros. Donc on continue de renouveler le concept année après.
Même au niveau des films, ça marche très bien. Au box-office, Kamen Rider était numéro 3, je crois, il y a deux semaines, le box-office japonais.
Tout à fait.
Succès même dans les salles, parce que je à la télé.
Oui, et en général, c'est les films Kamen Rider et Super Sentai qui sortent en double feature.
Kamen Rider, ouais, c'est ça. C'est les deux ensemble.
Tout à fait. Et donc, Power Rangers, donc, en fait, qui est devenu, on va dire, l'écran de cette nouvelle franchise, qui est en fait la variation américaine de cette franchise Super Sentai. Donc, en fait... Ce qu'on fait avec Power Rangers, c'est qu'on garde uniquement les séquences à effets spéciaux avec les personnages costumés et les monstres, et on tourne de nouvelles séquences avec des acteurs occidentaux, en fait.
On pourrait parler de What We Film.
En tout cas, là, le débat est relancé.
C'est mieux, c'est pas les mêmes personnes qui font les combats.
Ah ben non. Et voilà, révélation. Donc en fait, cette franchise-là a débuté en 1993... avec donc la première série, Mighty Morphin Power Rangers, donc produit par Saban. Mais il faut savoir que ça a été une gestation très compliquée pour Haïm Saban. Donc Haïm Saban, qui était le grand producteur musical, Mike Brown, je crois, et autres, et qui s'est fait ensuite un nom dans le dessin animé.
Et c'est son fils qui chante le générique de Goldorak, je crois.
En fait, c'est pas son fils, c'est son protégé, donc Noam.
D'accord.
Un petit gamin qui produisait à l'époque.
Et il...
Non, mais... bon, et c'est vrai que Saban a fait son beurre sur les génériques de dessins animés. Et en 1984, il est au Japon. Et un soir, il tombe sur une rediffusion de Bioman. Et là, il se dit, il y a un truc à faire avec ce type de série-là. Pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas faire des adaptations américaine avec ce type de série, les séries de Super Sentai. Et il était question à l'époque, dès le début, de faire une adaptation de Bioman, en fait. Et récemment, on a retrouvé des press kits prévisionnels sur une version américaine de Bioman. Et il faut savoir que le premier micro-pilote, il y avait eu une petite bande d'essai qui avait été tournée aux USA. Et Mark Dacascos était le Bioman rouge. Il s'appelait Victor Lee. Et on a déjà les quatre autres personnages qui ont les noms des Power Rangers, Zack, Trini, etc. Et le robot, donc Pibolo, le robot de Bioman, le robot doré, là, c'était déjà Alpha 5. Et en fait, Saban a présenté son projet à toutes les chaînes américaines, tous les networks, et personne n'en voulait. On me disait, mais ton truc, ça va pas marcher. Et finalement, c'est une des patronnes de Fox Kids qui, en 1992, a dit, bah oui, ouais, on le fait, donc... fait ton concept. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris dans un premier temps la petite bande démo de Bioman, mais ils ont ajouté à la place des images de Zioranja, donc la fameuse série qui était en cours à l'époque, la série avec les dinosaures. Et c'est cette série-là qui a servi de base à Mighty Morphin Power Rangers et qui correspond à la première saison donc de la saga Power Rangers qu'on connaît. Anecdote parallèle, en 1960, enfin à la fin des années 70, Marvel avait fait un contrat avec la Toei pour produire des séries de tokusatsu où on amènerait les personnages de Marvel au Japon. L'idée c'était de faire une série Captain America qui finalement a donné Battle Fever G, donc une série avec différents personnages venus qui représentent des différents continents du monde entier. Et ils ont fait la fameuse série Spider-Man, donc Spider-Diamond, donc dans lequel le Peter Parker japonais, donc qui n'est plus Peter Parker bien sûr, reçoit ses pouvoirs d'une entité extraterrestre de la planète Spider, et donc il a les pouvoirs de Spider-Man, il a le costume de Spider-Man, et en plus il a un vaisseau spatial qui se transforme en robot géant.
C'est XOR.
Voilà, c'est le premier robot de l'histoire du Tokusatsu, c'est dans Spider-Man en fait. Donc série quand même assez importante. Et Marvel va continuer son deal jusqu'à, je crois, Denziman, qui est le premier Sentai des années 80. Et Stan Lee voulait aussi faire des adaptations américaines de ces séries-là au Japon. Et finalement, c'est Saban qui l'a fait dans les années 90. Voilà.
D'ailleurs, j'ai juste une question. Parce que le plus connu, c'est Power Rangers. Et moi, j'ai le souvenir, quand j'étais gamin, début des années 90, où ils ont tenté la même chose qu'avec Power Rangers, mais avec une autre série qui s'appelait
VR Troopers,
voilà, où ils avaient recyclé Spillvan. Là, c'était encore pire. Ils avaient mixé trois séries en une. Et c'était trois séries qui n'avaient rien à voir entre elles. Il y avait Spillvan, je ne sais plus c'était quoi les
c'était
deux.
C'était Spillvan et Metal Door dans la première saison. Ouais. Et Spillvan et Scheider dans la deuxième saison.
Et le problème, c'est que ces séries, elles étaient passées en France. Donc quand tu voyais ça, tu te disais, c'est la mûre de Spillvan.
Ben oui, ben oui.
Même Metal Door, c'était passé en France. Donc quand tu voyais le remix avec des acteurs. C'est là où moi j'ai tilté.
Mais autant la pilule était passée sur Power Rangers, ouais. Mais sur VR Troopers, tu disais non, là on se fout de nous.
Bah parce que on avait vu les originaux, donc c'était un peu bizarre. En plus, le rugby, il y avait trois séries ensemble.
Alors, comment on en arrive de cette production donc de Power Rangers au film de 2017?
Alors, il faut savoir qu'on avait eu deux films Power Rangers qui étaient sortis au cinéma. Donc, on avait le film de 95 qui était sorti chez nous, donc Power Rangers le film, qui a été tourné en plus en Australie avec les mêmes acteurs et chapeauté par Shuki Levy et Haïm Saban, donc les producteurs de la série. Film qui avait quand même assez bien marché à l'époque, mais bon, c'était un film qui était plus dans la veine des Super Mario, Mortal Kombat, donc des adaptations qui avaient un peu plus de valeur ajoutée sur grand écran, mais qui accusaient le coup, aujourd'hui qui ont très mal vieilli, enfin qui étaient déjà même vus à l'époque à cause des effets spéciaux qui étaient un peu foireux. Il y avait eu un deuxième film qui s'appelait Turbo Power Rangers, qui n'était pas sorti chez nous en salle, c'était sorti directement en cassette chez nous. Qui lui carrément était plus dans la veine de la série, hein. On refaisait carrément les robots en live, en dur, comme dans Power Rangers. C'est un film qui n'avait pas trop mal marché à l'époque aussi. Et comment on arrive en fait au film d'aujourd'hui, c'est que Lionsgate a convenu d'un partenariat avec Saban pour faire ce nouveau film Power Rangers. Donc ils se sont dit, on a un vivier avec les films comme Hunger Games et Twilight via leur filiale Summit, pour faire finalement des franchises sérieuses pour les adolescents ou ce qu'on appelle les young adults. Donc du coup, Power Rangers s'est imposé comme étant peut-être la prochaine franchise à rebooter au cinéma. Rebooter à la fois de faire un film pour ados, mais en même temps de faire un film dans l'ambiance un peu Marvel.
Qui était abondamment dans le film.
Oui, voilà, tout à fait. Et l'idée, c'était aussi d'amener un jeune réal qui avait grandi avec la franchise, donc Dean Israeli, pour avoir cette vision qui, à la fois, pouvait être le compromis entre le Super Sentai japonais, le film de super-héros à la Marvel, et le film d'ado, un peu pas existentiel, mais un peu plus profond, pas forcément un film unidimensionnel.
D'ailleurs, ils ont annoncé, hein,
Alex.
Ils ont déjà annoncé que si le film marchait, il y en aurait 7 ou 8.
Oui, 7 ou 8. Une grosse
partie. Ils sont partis Enfin, c'est un peu comme, comme Warner, hein, quand, quand ils ont un truc qui marche, ils arrivent à être, un livre qui fait 50 pages, ils arrivent à t'en faire 7 films.
Mais c'est donc, ça. Mais c'est vrai qu'il y avait sur Power Rangers, il y avait un défi et un challenge, c'était de demander aux spectateurs de dépasser finalement le souvenir kitsch de la série pour dire, voilà, il y a un nouveau film PR, donc Power Rangers qui sort, on va essayer de le faire le plus sérieusement du monde possible. Et en même temps d'assumer le concept. Et il faut le dépasser, ça. Et ça, c'est quand même un peu difficile parce que pour les gens, Power Rangers reste un truc kitsch, reste un truc. Une sous-exploitation du Sentai. On a soit les fans de Sentai puristes qui ne veulent pas aller voir le film, soit les gens qui pensent que Power Rangers, c'est un truc pour les gosses et qu'on ne peut rien.
Pyjama.
Exactement. Pyjama.
Ouais. Mais d'ailleurs, moi, quand j'ai vu. Alors, je dois avouer que je n'ai pas vu le film. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit que ça ne me dérangerait pas d'aller le voir. Alors, sûrement avec mon fils, pour avoir une caution quand je vais chercher les tickets.
Parce que
quand je vais chercher les tickets à la caisse.
Ça m'a donné super envie. Hein.
Ben, en fait, c'est le genre de film que tu regardes en ce que je qualifie en deuxième partie de soirée en VOD.
Avec
ça passe tout seul. C'est le film du dimanche après-midi pluvieux. Mmh. Je me battrais pas pour le voir absolument. Si je le vois en VOD, ça changera pas ma vie. Mais la bande-annonce m'a donné envie.
Enfin, c'était une des interrogations quand on a vu les premières bandes-annonces, c'est-à-dire à qui ce film s'adresse en fait. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas cet aspect nostalgique qu'on peut avoir dans le reboot de série voilà, des années 80-90 à la 21 Jump Street ou à l'Alerte à Malibu,
celle
qu'on va voir. Donc il n'y a pas ce côté ironique et en même temps, est-ce que ça intéresse les gamins d'aujourd'hui de voir des Power Rangers? Donc, le film s'adresse à...
Ouais, mais donc, la série existe toujours, Power Rangers. Oui, ça fait... Il y a une nouvelle saison.
Ouais, mais ça a perdu son ordre. C'est plus dans l'ordre de gloire, en fait.
Parce que pour le coup, je suis bien placé pour le savoir.
On parle jamais.
Et je veux dire, le Power Ranger, je n'ai jamais montré à mon fils Power Ranger, et pourtant il connaît.
Ouais.
Et ils arrivent à se renouveler. T'as les Power Rangers avec les dino-charges.
Oui.
T'as les Power Rangers samouraï, Power Rangers ninja, Power Rangers, etc., etc. Et là, je fais attention à ça. C'est quoi? C'est 16e saison?
Ouais,
je
sais plus. C'est plus que 3e.
Alors qu'en fait, ça se renouvelle les Power Rangers. Et même quand j'étais en 5e, ça veut dire en 2005 ou 2006, quelque chose comme ça.
J'allais dire 2010.
Je suis pas si jeune. Et donc, on parlait sérieusement de à l'époque, la saison c'était Super Police Delta. Et on en parlait sérieusement.
Ah, c'est
oui,
en 5e, tu regardais encore pour
Ben justement, on en parlait sérieusement parce que Super Police Delta, il y avait des vrais enjeux. Et même au niveau des effets spéciaux, il y avait vraiment quelque chose, un travail et tout, et même de ce que ça racontait, c'était vachement intéressant.
Il y a des très bonnes saisons qui se distinguent des sources japonaises. Mais il faut savoir que Power Rangers avait marqué les esprits à l'époque, en 93-94, parce qu'il y avait une grosse OP promo, parce qu'on n'avait jamais eu les séries de Super Sentai qui étaient en général balancées direct au Club Dorothée, juste pendant une période de 4-5 mois pour que Bandai puisse écouler les stocks. Mais c'est vrai que Power Rangers, on te vendait ça quand même comme un truc assez énorme et comme un truc qui allait rester. Et 24 ans plus tard, la série a été rachetée par Disney à un moment donné, puis ensuite Saban a récupéré la licence. Ce qui aurait été marrant, c'est que Disney ait toujours gardé Power Rangers aujourd'hui et qu'on aurait sûrement fait un crossover avec les films Marvel. Ça serait rigolo. Mais bon, ne parlons pas de malheur.
Ça existe en comics.
En comics, ça peut se faire. Au cinéma, ça semble un peu c'est compliqué.
On en est à la 24e saison. Voilà. Et donc en 2017, c'est Power Ranger Ninja Steel. Et bien sûr,
qui adapte Ninja.
Et en 2018, ça sera forcément Power Ranger Super Ninja Steel. Donc, à chaque fois, c'est ça. C'est une saison normale et une saison super. Donc, ça, c'est encore mieux.
Mais Super Police Delta, c'était bien.
Alors, on en arrive donc au film de 2017. Est-ce que ce qui semble être un peu une contradiction dans la manière dont le film est marketé fonctionne à l'écran sur un film qui fait d'ailleurs 2h04, donc plus de 2h, donc qui est extrêmement ambitieux, qui demande un certain effort de la part du spectateur. Et oui, mais on pouvait se demander avant d'entrer dans la salle. Moi, j'étais un peu sceptique sur le fait
de voir
un
film. T'avais l'air super motivé.
Non, mais je suis motivé, mais un peu sceptique sur le fait. Je me demandais ce qu'on allait me raconter pendant 2 heures sur un film qui s'appelle Power Rangers. Mm-hmm. Fabien, est-ce que tu trouves que le film fonctionne?
Alors moi, j'avoue que j'étais à la fois j'étais j'attendais le film avec modération. C'est-à-dire, je me disais je suis intrigué quand même de voir cette nouvelle mouture, et je suis intrigué de voir qu'ils aient eu d'excellents acteurs pour les second rôles, Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Bill Hader, qui est un de mes comiques préférés du Saturday Night Live. Moi j'adore Bill Hader, il va faire la voix de Alpha, le robot, tu te dis ouais, ok, pourquoi pas. Et c'est vrai que le film, bon, il a énormément de qualités et beaucoup de défauts, c'est-à-dire en termes de qualité, on nous pose 5 personnages qui sont assez attachants, qui sont assez bien écrits relativement, qui abordent des problématiques de l'adolescence qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, surtout pour un film qui est censé être PG-13. Donc voilà, on apprend qu'il y a un personnage qui se pose des questions sur son orientation sexuelle, un autre qui est clairement défini comme étant une personne autiste. Donc du coup, je me suis dit, c'est quand même assez intéressant qu'on amène ces problématiques-là. Surtout, ça a été tourné au Canada, donc on n'est plus du tout dans cette ville californienne super solaire de la série originale, dans un truc un peu gris, un peu coupé du monde. Donc ce sont des personnages qui sont vraiment reclus, isolés, on est à la limite du white trash américain par moment, donc c'était assez intéressant. Donc les 5 archétypes,
hein, white trash gentil,
white trash sympa quoi, hein, mais white trash Vancouver, tu vois. Et c'est vrai que c'était intéressant de prendre ce cadre là un cadre plutôt plat qu'un cadre plutôt on va dire vertical. Ça m'a plu. Et curieusement, quand on aborde la partie Power Rangers, c'est là que le film m'a moins intéressé, parce qu'on va sur quelque chose d'extrêmement fun, de très décomplexé, et qui s'assume en tant que tel. Ça marche, parce qu'on est pris justement dans cette vague de fun, de mecs qui se bastonnent et de robots géants qui se battent contre des monstres. Et en même temps, je me suis dit, bon, le film switch sur autre chose, s'assume en tant que tel. On a limite deux films d'une heure en un.
Avec le générique de Power Rangers.
Avec le générique de Power Rangers qui arrive. Et des fois, je me suis dit, le film décroche. Parce qu'on a des vannes qui sont un peu douteuses. On a un humour un peu pipi-caca par moment qui se fait sortir un peu du film. Elizabeth Banks, qui est une actrice que j'aime beaucoup, j'ai l'impression qu'elle est un peu off par rapport aux autres dans le film. Dans la mesure où elle en fait des questions. Ah, je suis, t'arrêtes plus ça, grandis mon monstre et tout. Alors que les jeunes sont très premier degré, très genre, ah, je suis adolescent, je me pose des questions sur la vie et tout ça. Et moi, j'ai un petit souci avec certains designs, genre le design de Goldar, le monstre géant, qui est une espèce de bouillasse d'or géante. Et j'étais allé faire, quand même, les mecs, vous auriez pu faire un petit effort en termes de design. Et le Megazord, bon, qui est un robot qui fait plus penser à Pacific Rim, mélangé à un Eva, donc de Evangelion. On perd l'aspect massif et bloc des Gatai de Super Sentai, et je trouvais ça un peu dommage. Mais en même temps, on ne peut pas le reprocher, parce qu'on est dans une logique de reboot, c'est-à-dire on reprend tout à zéro. Pareil pour les costumes, c'est cette espèce plus de costume d'Iron Man. Et les Power Rangers sont censés ne pas révéler leur identité, et la plupart du temps, ils ont quand même le casque avec la visière ouverte et on voit bien leur tête. Mais bon.
Les gens ne sont pas censés les voir à ce moment-là.
C'est ça, c'est ça. C'est ça.
Mais on ne voit pas, donc ils le disent.
Par contre, il y a des contacts.
Mais comme d'origine, c'était du stock shot, donc on ne devait pas les voir.
Voilà, exactement. Donc on amène finalement on va dire, la conception américaine des super-héros dans cette nouvelle mouture. Et bon, il y a quand même un hommage au Sentai, puisqu'à un moment donné, ils se battent dans une carrière, quand même, ouais, comme dans toute série de séries.
Ça ne dure pas assez longtemps.
Voilà, il y a des petits choses comme ça où le film décroche par moment, parce qu'il faut des fois que ce soit fun, il faut que ce soit un peu décalé, mais il faut assumer le concept. Mais j'avoue que, par exemple, moi j'ai préféré voir ce film-là au Kong Skull Island, qui m'avait laissé un petit peu de marbre. Et je me suis dit, pour un film Power Rangers, c'est quand même une bonne base, c'est un bon début, peut-être rééquilibré. L'aspect action et l'aspect, on va dire, drame existentiel, entre guillemets, tu vois. Bon, voilà. Mais je me disais que si que Dean Israelitz, s'il avait un budget un peu plus conséquent, là, je crois que c'est un film qui a coûté 100 millions, hein, à peu près. 100 millions, je me disais, si le mec avait eu 150, 160 millions, il aurait fait des trucs, mais vraiment super
en termes d'action. Au niveau mise en scène,
il y a des choses.
La scène d'ouverture, le plan séquence en voiture, il y a quelques passages. Ou la scène sous l'eau, la première.
Oui, oui.
Une fois qu'ils arrivent dans l'espèce de base souterraine.
Tout à fait. Étonnamment, du Bill Viola à ce moment-là. Moi, j'ai pensé à ça. Du coup,
il y a quand même assez de recherches.
Tout le budget est passé dans les nouveaux costumes, en fait. Parce qu'avant, ça coûtait rien, le lycra. Là, du coup.
Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a des moments, Justin, où le truc crée des atmosphères, ou crée des dynamiques de mise en scène que tu dis, mais attends, mais je suis en train de regarder un film Power Rangers, et le mec teste des trucs, expérimente des plans séquences de 4-5 minutes qui n'en finissent plus. Tu dis, c'est quand même intéressant. Bon, c'est pas non plus le cuirassé Potemkin, hein, le film, faut pas exagérer.
Mais vu la base,
les gens s'étonnent que le film soit aussi bon. Et le problème, c'est que le film rame un petit peu au box-office US. je pense que les gens s'arrêtent au nom de la franchise, ils disent, Power Rangers, je verrai ça effectivement en deuxième partie de soirée en VOD avec mes enfants. Et c'est peut-être à ce niveau-là que le film va peut-être plus fonctionner, mais ce serait dommage parce que je pense qu'il y a une promesse d'un deuxième opus peut-être plus grandiose.
Du coup, est-ce que s'il a une seconde vie en VOD, il pourrait quand même y avoir une franchise qui pourrait
exister. Celui qui marche en Chine, c'est comme Pacific Rim qui n'avait pas marché de base, et il y a un 2 qui arrive parce que ça a cartonné en Chine. Ça n'avait pas marché.
Moi, j'aimerais bien que bon, si le film se rentabilise tout juste aux USA, ce sera déjà pas mal, mais j'aimerais bien que les gens se le procurent à la maison en DVD tout ça, parce que il y a des choses quand même plus intéressante que dans la plupart des blockbusters. Et encore une fois, quand on voit l'origine de cette franchise, on sait de quoi on parle. C'est une franchise cheap, Power Rangers. Je ne parle pas de Super Sentai, que moi j'adore, mais Power Rangers, c'est quand même fait de briques et de brocs. Mm. Et les mecs arrivent à extraire des choses qui sont des fois plus intéressantes que dans des films Marvel. Je veux dire,
C'est mieux que Suicide Squad.
Oui, mais carrément. C'est mieux que Civil War. Mieux que Civil War. Au moins, quand les mecs se battent, ils essaient de créer des choses intéressantes. Ce que je leur reproche, c'est peut-être de ne pas assez contextualiser les robots. Tu vois, on te parle du principe aussi que c'est Power Rangers et tu acceptes des trucs. Je me suis dit, des fois, prenez le de plus installer vos robots, vos personnages, tout ça. Par contre, le film arrive réussi sur les instants les plus compliqués de Power Rangers. C'est-à-dire tous les trucs qui ne devraient pas marcher, Zordon, Alpha, tout ça, ça fonctionne. Et c'est sur les trucs qui devaient fonctionner, donc les robots, les monstres géants, tu dis, c'est pas assez, ça manque un peu de vision, quoi.
Kefren, hein.
Ouais, je rejoins Fabien justement sur le fait que c'est comme si qu'il y a deux films en un film. Et moi, justement, le deuxième film qui consiste à être vraiment Power Ranger et se battre et tout, m'intéressait pas du tout. Mais... Et même quand ils se battent dans la vie, je me dis, putain, mais j'ai déjà vu. En plus, on a déjà vu Pacific Rim. On a genre Transformers tous les deux ans, des trucs comme ça. Je me dis, putain, j'ai déjà vu ça. Alors que la première partie est vachement intéressante. Mm-hmm. Et notamment lorsqu'ils vont découvrir la cave et des choses comme ça, il y a des choses qui jouent à la mise en scène, même au niveau symbolique. Des choses comme ça. Par exemple, à un moment, ils doivent tous sauter, et donc le moment, et tout le monde sait ce que ça veut dire le saut en termes de symbolique et des choses comme ça, ou qui rejoignent le groupe ou des choses comme ça, et c'est très intéressant en fait. Alors que justement, et même là, justement, la mise en scène explique le film au niveau des mouvements, des corps, etc., du saut, des symboles, de l'eau, etc.
Et puis ça se voit au niveau des références, parce que il y a Chronicles, clairement, dès qu'on a vu la bande-annonce, c'est vrai que c'était une influence. Mais il y a Breakfast Club, il y a la séquence Breakfast Club de confession, avec la caméra qui tourne autour du feu, chacun raconte un peu ses petits problèmes, alors que d'habitude, on peut avoir les moments embarrassants, c'est les moments avec les ados US, les scènes vraiment que c'est consternant la plupart du temps, et là, au contraire, ils ont réussi à donner de la consistance, un minimum aux personnages, on s'attache à eux, on les suit quand même. Alors que dans la série, c'est consternant, c'est ridicule la plupart du temps.
Là, ils sont tous bien caractérisés. Quoi.
Martin.
Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que les personnages sont tous bien caractérisés. Et c'est pas, en plus, ce n'est pas des premiers de la classe. C'est ça qui est intéressant. C'est que je suis content de ne pas avoir le capitaine de l'équipe de foot. Enfin, du moins, s'il est.
On l'a un petit peu quand même.
On l'a un petit peu.
Il a un petit problème.
C'est les personnages qui sont tous un peu déchus, qui ont des preuves relationnelles avec leurs parents. Mm-hmm. Parce que le peu qu'on les voit avec leurs parents, ça se passe pas forcément bien, quoi. Notamment la force jaune, on comprendra plus tard pourquoi, mais bon, voilà, elle n'a aucune attache parce qu'elle explique que tous les ans, elle déménage, quoi. Et elle est la cause, on va dire, de ces déménagements, parce que les parents n'assument pas son orientation. Voilà.
Non, ce n'est pas un problème. Ce qui, elle, est devenu un problème, parce que ça, elle n'est pas acceptée à cause de ça.
Voilà. Et finalement, elle va se retrouver acceptée par ses amis-là, quoi. Pour eux, ça ne va pas leur poser. Ça peut être un critère de rejet ou quoi que ce soit. Au contraire, non, mais écoute, reste avec nous, quoi. Voilà, c'est. Et tous ont leur petit problème, ce que j'aime bien, c'est que tu as presque l'impression qu'ils peuvent les surmonter ensemble. Donc, au-delà, on va être du côté, tu vois, on met notre armure, on va battre contre un méchant, c'est on est des ados et ensemble, on va peut-être pouvoir affronter les problèmes de la vie, quoi, tu vois, se soutenir mutuellement.
C'est peut-être un des trucs où vous aurez pu réussir à mieux fusionner avec le Power Rangers de Musk que dans. Power Rangers, c'était l'histoire du Power Ranger vert là, dans la première série là, qui vire méchant, machin. Ben, ouais. C'est un truc, ça va peut-être amener un peu plus de profondeur. Parce qu'on sent ça avec le Power Ranger jaune, il voudrait l'amener côté qui est un peu mal tourné ou quoi, mais finalement c'est pas, ça s'arrête là.
Non, mais l'adaptation, l'ancien vert, c'est très plus ça qui a trahi les siens, quoi. Donc, ouais, il te l'explique, voilà. Et puis, la scène de fin de générique te laisse entendre.
Oui, il y a une annonce suite possible.
De toute façon, vu les résultats au box-office aux États-Unis, le film. Il devrait y avoir un 2 sans problème parce qu'il est sorti, il est sorti fin mars, début avril. Il a déjà fait 70 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Après, je ne sais pas s'il y en aura 6 ou 7. Hein, l'avantage de Power Rangers là, c'est qu'ils ne sont pas contraints comme Hunger Games ou autre de devoir absolument faire un film. S'il y en a un, s'il s'arrête, ils annoncent une suite à la fin ou pas. Au pire, si elle n'a pas lieu, elle n'a pas lieu. Mais en tout cas, il devrait y avoir un 2 après pour le 3, 4, 5, ouais. On verra après.
C'est une trilogie.
Oui, voilà, mais en tout cas, je pense que le film peut retrouver aussi un second souffle, justement, par la VOD et tout ça. Toutes les personnes qui n'ont pas osé le voir au cinéma vont peut-être se dire ah, mais en fin de compte, c'est peut-être possible, et le 2 pourra peut-être du coup ramener, drainer plus de monde.
C'est ce qui risque de se produire en plus.
Oui.
Voilà, donc on peut retenir que finalement, ça nous met beaucoup plus d'accord que Ghost in the Shell et qu'il n'y a pas de film honteux. Vous pouvez aller voir Ghost in the Shell, vous pouvez aller voir, pardon, Power Rangers, demandez votre ticket à la caisse pour un film Power Rangers, même si vous n'avez pas d'enfant.
Il y a les bornes, si vous avez honte de demander, il y a les bornes.
Mais bon, personne ne vous jugera.
Moi, je veux le revoir, j'y retourne, moi, franchement.
Ouais, écoute, ça tombe bien, je ne l'ai pas vu, on ira le voir ensemble.
Alors, on va parler d'autres adaptations américaines de concepts japonais, de manga. Ceux-là, on les verra à la maison. Enfin, celui-ci, on le verra à la maison, puisqu'on a eu le premier trailer de Death Note qui nous a un peu pris de court, parce qu'on ne savait pas qu'il allait y avoir un trailer comme ça qui est sorti un peu nulle part. C'est annoncé donc sur Netflix pour le 25 août. C'est un film d'Adam Wingard, donc le réalisateur de Your Next.
Et de Blair Witch, faut le dire aussi.
Et de Blair Witch, hein, qui n'était pas complètement raté.
Quoi ?
Du coup, alors, est-ce qu'on.
Le nouveau ?
Le nouveau était complètement
alors,
raté.
On va pas parler de Blair Witch, c'est pas le sujet.
Les temps qui volent.
Mais du coup, est-ce que ça vous inspire confiance, Elias ?
Moi, je veux bien qu'on me fasse rien sur Power Rangers quand je n'ai pas vu le film. Death Note. Le manga est très bien. Voilà, non, mais en fait le problème c'est que en fait j'arrive pas à comprendre. Non, en fait je comprends pourquoi il y a un film américain, c'est que c'est un concept qui est pas du tout, qui est assez japonais en tant que tel, mais qui est assez adaptable au
monde américain. En fait, il y a juste des gens qui sont japonais. Après, voilà. Je pars sur une intrigue.
C'est un concept qui est universel, c'est un concept qui est faisable aux US. Et en soi, je serais pas contre si déjà il y avait pas déjà 4 films Death Note japonais qui étaient tout pourris. Qui sont vraiment, vraiment tous ratés, dont un Nakata qui est aussi raté que les autres, et du coup, si Nakata n'arrive pas à faire, pourquoi si Wingard, qui est pour moi un des réels les plus surestimés de tous les temps, pourrait réussir à faire un bon film. En fait, moi je suis pas contre Death Note en tant que tel, je suis contre Death Note après 4 films pourris japonais et de Wingard. C'est plus une question du film en tant que tel que du film de manga. En tant que tel, je trouve que Death Note, c'est un sujet qui peut très bien s'adapter au marché américain. Et si le film est bien, qu'il soit bien, il n'y a pas de problème. Quoi.
Alors, sur Death Note, c'est un film Netflix. Donc, c'est un film qui est fait pour marcher dans 180 pays. C'est quand même un.
Mais c'est un sujet qui est assez.
Oui, non, mais bien sûr, mais les films japonais, au final, sont faits pour les Japonais, pour le Japon, parce que globalement, à part nous. Et les fans de cinéma japonais, le cinéma japonais ne fonctionne pas
en
dehors.
Et encore, nous, on voit que les films qui sortent en France.
Ouais, voilà.
Réalisateurs bien particuliers.
Et après sur Netflix, si on peut quand même.
Enfin, ça reste Wingard quand même, mais Wingard c'est comme un réel de merde. Enfin, je veux dire.
Il y a pire. Objection entre The Guest.
Ouais, The Guest pas mal, mais entre Your Next et Blair Witch, c'est bon, j'ai eu ma dose quoi. Le mec, je vois qu'on peut encore lui faire des projets
qui pourraient. Après, il a droit d'autres chances aussi.
C'est comme sa troisième chance là, t'as un moment où arrêter. Hein.
Mais celui-là, c'est.
Bon, on va se retrouver sur Death Note. Mais
en même temps, on parle du réalisateur.
Oui, on est sur le réalisateur.
Voilà, non, mais moi. Moi, Death Note, je suis pas contre. Voilà, ce que je dis, c'est que pourquoi pas sur un sujet qui peut être universalisé, qui peut être important, enfin pas important, mais qui peut être intéressant dans plein de pays, qui peut marcher aussi bien aux US qu'en France, qu'au Japon, qu'en n'importe où. Mais Wingard, c'est pas un bon réal. Le film va être mauvais parce que c'est Wingard qui réalise. Moi. C'est mon avis.
Mais je suis pas sûr que le film va être pourri, mais en tout cas, ça montre encore une fois l'intérêt de Netflix, de son internationalisation. Je vais y arriver. Parce que de plus en plus ils produisent au Japon, ils produisent en Corée du Sud, ils produisent et puis surtout faut savoir que je l'ai déjà dit sur Cinéasie, Netflix c'est un peu comme une liste au Père Noël. Ils veulent se payer un réalisateur, ils se le payent, ils veulent se payer un film, ils se le payent. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas comment ça marche, mais j'ai l'impression qu'ils ont des crédits illimités et qu'ils peuvent se payer tout le monde.
Netflix,
ils vont.
Scorsese qui va chez Netflix.
Voilà, non, mais
je pense que c'est peut-être même plus. En fait, le phénomène Netflix est peut-être même plus intéressant en fait
que Death Note. Ouais. Juste si tu prends un coup sur plus et voilà, c'est bon.
Je pense pas pourquoi il y a tu dis qu'ils veulent tuer le cinéma justement comme.
Non, c'est pas exactement. Si, mais c'est Kefren qui m'a dit ça l'autre jour.
J'ai oublié le nom. A dit dans un article qu'il voulait clairement arrêter le cinéma en salle. Pour lui, il trouve que les gens n'ont pas besoin de sortir de chez eux pour avoir du cinéma. C'est ce qu'il dit.
Mais
il
n'a pas fait sortir en salle.
C'est deux modes de...
Oui, mais lui, il veut carrément terminer le cinéma.
C'est comme le boss d'Amazon qui veut tuer tous les magasins parce qu'il n'en a pas. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre des magasins et...
Oui, mais le truc avec Netflix, c'est que c'est possible. Il est en train de le faire. Il prend Scorsese et il fait...
Non, parce que... Alors,
Scorsese a fait aussi des choses pour la télé depuis les années 80 et on n'a jamais dit parce qu'il faisait de la télé, télé allait tuer le cinéma.
Déjà, je crois, que Scorsese c'est sur Amazon.
Non, pas en salle. Non, c'est Irishman, il est Netflix. Et justement, le fait qu'un film de Scorsese ne puisse pas sortir en salle, ça veut déjà dire quelque chose.
C'est-à-dire,
un film de Scorsese que tu ne verras jamais sur le grand écran.
Juste en Corée du Sud.
Juste en Corée du Sud. Oui, il sortira en Corée du Sud quand même.
Parce que Assassination non, Okja non, Headshot non, Irishman je crois pas.
Ils sont pas sortis en salle. Et alors vous imaginez un monde, le patron de Netflix, il veut un monde où les grands réels ne sortent pas de films en salle.
Oui, mais c'est parce que
ça, c'est les réels qu'il a achetés en tout cas.
Mais il y a des réels qui censurent déjà contre eux.
Non, mais ça c'est parce que c'est son business. Son business, c'est de vendre de l'abonnement Netflix. Donc ça, c'est son business. Mais après. C'est un débat qui est vieux comme le monde où de toute façon la cassette ça va tuer
la
musique, la télé ça va tuer. Pourquoi il faut savoir en France pourquoi parce que en France pourquoi il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de film en France le vendredi et le samedi soir sur TF1, France 2, etc. Pourquoi? Parce que historiquement pour pas concurrencer les salles de cinéma. Donc maintenant c'est peut-être un petit peu anachronique parce que ça marche plus, mais je pense pas sincèrement que Netflix concurrence un jour le cinéma, parce que de toute façon c'est pas la même expérience. C'est comme si tu disais qu'un match de foot sur Canal Plus ça concurrençait un vrai match de foot et pourtant il y a 80 000 personnes.
Non, mais c'est pas la même chose.
Et pourtant il y a 80 000 personnes dans un stade.
Netflix ne propose pas d'exister en parallèle au cinéma, il propose de prendre les réalisateurs, de prendre leur film et de faire exister que sur Netflix. C'est à dire qu'il veut retirer Netflix du cinéma pour
le réussir à le faire.
Mais il est en train de le faire.
C'est ce qu'on disait de tous les nouveaux
modes. Mais Scorsese, c'est le réalisateur du cinéma.
Dès les années 50, dès les années 50, Hitchcock est allé à la télévision et personne n'a dit.
Mais c'est pas existant.
Ça n'a pas empêché à Hitchcock de faire des films pour le cinéma et ça n'empêchera pas Scorsese de faire d'autres films pour le cinéma. Ça veut dire qu'il y a une proposition qui est alternative. Mais il va pas les acheter pour qu'il fasse plus que du Netflix.
La volonté de la télé n'était pas de faire disparaître. Il n'y a personne à la télé qui s'est dit putain, on va faire disparaître le cinéma. Alors que là, il y a un mec qui s'est dit oui.
Oui, mais non, mais en fait, le problème, c'est que tu as pris sa déclaration au pied de la lettre. Oui. C'est-à-dire que son job, c'est de vendre du Netflix. Donc de toute façon, il est comme ça. Et après, il faut voir aussi que de toute façon, le truc, c'est qu'avec Netflix, tu peux aussi voir des films, et c'est une réalité que tu verrais jamais ailleurs. C'est-à-dire que t'as beau faire ce que tu veux, mais au cinéma, il y a des films. Alors effectivement, Scorsese, ses films sortent en France, mais il y a plein de réalisateurs qui bossent pour Netflix, et dont les trucs sortiront jamais en salle, ou alors ils feront 50 entrées. Et je suis pas sûr que le prochain Bong Joon-ho en salle fasse beaucoup d'entrées en France. Le job de Netflix, c'est évidemment de vendre du Netflix, mais ça permet aussi de découvrir des réalisateurs. Alors évidemment, il y a des films qui se voient plus au cinéma qu'en VOD. Je suis persuadé qu'un Power Rangers, c'est du grand spectacle, et moi je pense que c'est mieux de le voir au cinéma que à la télé. Mais Netflix ne tuera jamais le cinéma, c'est pas la même expérience.
Oui, non,
c'est
mais pas la même chose. Moi je suis persuadé qu'il ne tuera pas le cinéma, mais je dis qu'il y a quelqu'un avec une volonté.
Oui,
qui a
volonté.
Alors que lorsqu'il y avait la télé et tout, personne dans la télé n'avait la volonté de faire disparaître
mais qui
l'expérience.
Te dit que personne n'avait la volonté, ça, personne ne l'a dit, c'est
simple. Mais je veux dire, la télé existait en parallèle, les réalisateurs faisaient.
Mais en fait, on l'a
non, mais il n'y avait pas d'intelligence qui disait qu'il avait prévu un plan de
promouvoir les trucs.
Alors que peu importe au niveau des intentions, c'est des intentions qui sont réelles par rapport aux médias ou des intentions qu'on lui prête. Ça, c'est la même chose par rapport à la réalité que ça va produire.
Et puis,
que ça va produire, c'est que historiquement, il y a déjà eu des choses qui des éléments qui
concluent. Mais moi, je ne crois pas qu'il va disparaître.
Et que jamais ça n'a empêché au cinéma d'exister, mais ça a toujours proposé de nouveaux marchés et de nouveaux modes de production.
Et puis, je vais te dire un autre truc, c'est que je pense que ce monsieur-là ne veut pas tuer le cinéma, parce que si on cite quelqu'un à chaque fois qu'il faut remplacer le PDG de Disney, c'est le PDG de Netflix. Le nom qui sort le plus souvent en ce moment, alors là, le PDG de Disney a reprolongé, je crois, pour 2 années supplémentaires.
Bob Iger.
Ouais. Mais par contre, à chaque fois qu'on sort le nom de quelqu'un pour remplacer le patron de Disney, c'est donc Reed Hastings, le patron de Netflix.
Et t'inquiète pas, donc, le jour où il arrivera à Disney. Il tiendra le discours inverse.
Il tiendra le discours inverse. Tout ça, c'est du business.
Non, mais moi, je suis conscient, mais je dis juste qu'il y a de volonté. Qu'il n'y avait pas avant.
Extrêmement éloigné du débat.
Et donc, dans Death Note, les acteurs sont blancs.
Un autre débat polémique après ce que veut faire Netflix et Amazon. On a vaguement parlé d'Amazon, mais du coup, ça aurait pu être un autre sujet. Effectivement, sur Death Note, il y a eu une pétition, alors signée par je ne sais plus combien de centaines de personnes.
Un peu plus, non ?
Quelques milliers de personnes. En fait, par beaucoup de personnes, attaquant le film et proposant un boycott. À cause du whitewashing du film. C'est-à-dire que pour eux, Death Note a une origine japonaise et doit être interprété par des acteurs japonais.
C'est déjà le cas, hein, ils peuvent. Hein.
Ils l'ont déjà fait. Hein,
qui veut réagir là-dessus, Elias ?
En fait, moi, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que le whitewashing, en fait, c'est moi, ce qui me rend hallucinant, enfin, que ce que tout le monde sait autour de cette table, mais que je trouve hallucinant, en fait, c'est que c'est un débat qui n'existe qu'en Occident. C'est-à-dire que pour revenir à Ghost in the Shell, les Japonais, on n'avait rien à foutre que Scarlett Johansson joue Motoko. Ils trouvent ça vachement bien, au contraire. Il n'y a pas de débat là-bas. Le débat était que ici.
Mm-hmm. C'est un débat du même genre dont on a beaucoup parlé.
Totalement logique, en fait. Je veux dire, tu regardes des mangas, tu regardes n'importe quel manga. Maintenant, à je sais pas quelle année. Tu vois, personnage est japonais explicitement. Quand quelque chose par un personnage blanc, là, ça pose problème. Mais au final, là, dans Death Note, il pourrait très bien être américain, il n'y aurait aucun problème.
Alors, moi, j'irais plus loin parce que dans des mangas japonais, certains personnages sont occidentaux et dans les adaptations japonaises, ils sont interprétés par des japonais. Dans l'Attaque des Titans, par exemple, il y a des personnages occidentaux qui sont interprétés par des japonais.
Il y a qu'un seul personnage japonais.
Du coup, ça pose problème. Ça pose problème à personne de ce côté-là. Et là, tout d'un coup, effectivement, on a envie de créer des polémiques alors qu'on parle de remake, d'adaptation. C'est-à-dire qu'on va prendre l'histoire de Death Note, on va la transporter à Seattle dans un environnement américain. Où on va pas faire.
C'est comme si on interdisait en fait un réalisateur japonais d'adapter
Astérix,
un roman non asiatique en fait.
Et par exemple, il y a eu l'adaptation japonaise de The Unforgiven, le film d'Eastwood. Donc voilà, avec Ken Watanabe qui reprenait le rôle de Eastwood. Donc voilà, ça, là-dessus, ça pose pas de problème.
L'histoire du cinéma et des remakes, de toute façon, marche dans ce sens.
De toute façon, du moment que c'est recontextualisé, c'est comme si on reprochait aux 7 mercenaires d'avoir Steve McQueen et pas avoir Toshiro Mifune.
Une histoire peut-être adaptée par n'importe quelle personne, dans n'importe quel pays, n'importe quelle nationalité.
Mais je pense que tout ça, c'est du business.
Kurosawa a fait Macbeth.
Mais oui, est-ce qu'on a râlé, quoi ?
Bah non, parce qu'il a fait...
Quand
Kurosawa, dans Rêve, fait interpréter Van Gogh, il va chercher Scorsese, donc un acteur blanc tout de même, donc il va pas pousser le risque jusqu'à avoir que des japonais.
Mais après,
c'est un
personnage historique.
Mais après, de toute façon, que ce soit ce qu'ils appellent le whitewashing ou les remakes ou quoi que ce soit d'autre, tout ça c'est du business. C'est-à-dire que si un acteur, enfin si une actrice japonaise avait été capable de porter sur ses épaules 100 millions de dollars de budget, ben, ils auraient pris une actrice japonaise ou n'importe qui d'autre pour Ghost in the Shell. Là, pareil pour Death Note.
Après, ils ont pris Kitano pour la caution japonaise.
Voilà. Pour Death Note, s'ils avaient pris un acteur japonais, bah, ils ont déjà essayé pour les autres films et ça n'a pas trop marché. Hein.
Bah, ils ont fait des films japonais, mais c'est-à-dire que là, pour Death Note, on est dans un film américain.
C'est un film américain, bah, c'est un remake, c'est une adaptation.
Bah, c'est un film américain qui se passe à Seattle.
Si on prend ça serait même raciste de prendre des acteurs d'origine asiatique parce que c'est une adaptation de manga.
Voilà, en fait,
on arrive à
un espèce
de retournement.
On arrive à du racisme dans les deux cas, en fait.
On peut rien dire,
maintenant. On imagine qu'il y a du racisme dans les deux cas.
On arrive même à un truc ridicule, c'est-à-dire il y a prochainement un biopic de Nina Simone, je crois qu'il doit sortir,
oui,
et t'as Zoé Saldana qui a été
recrutée,
elle est pas assez noire. On en est là, quoi.
On a la
pigmentation qui joue.
On a la palette de couleurs en fait qui traîne à côté de nous, quoi.
Mais de toute manière,
Gal Gadot n'a pas de poils sur les bras.
Tu veux mon avis? Je pense que la pétition pour Death Note, c'est moitié de fans relous qui veulent pas que le film se fasse qu'on voit Jojo, et moitié de meufs, enfin, ou de mecs d'ailleurs, je crois que j'ai une meuf, qui ont pas vu le film et qui ne savent pas ce que c'est Ghost in the Shell, qui ont vu une polémique trop bien, oh, effectivement, Asiat blanc, oh là, oh là, je vais signer.
Ça permet de faire un buzz aussi sur un film. Hein.
Sauf que le buzz est négatif, hein. Il y a
le producteur de. Si ça se trouve, c'est le réalisateur qui a lancé la pétition.
C'est juste gueuler pour gueuler, ça sert à rien, quoi.
Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, l'adaptation américaine de Death Note. Même si c'est pas un énorme buzz, faut pas déconner.
C'est un réel de merde.
Passé sur 3 postes. Hein.
Ouais, pareil. Ouais,
la pétition, c'est pas non plus un truc énorme. Quoi qu'il en soit, que ce soit négatif ou positif, ça fait parler du film.
Les gens la regarderont de toute façon.
Et c'est l'essentiel. On s'en fout que ce soit un buzz négatif. Le film fait parler de lui.
Quand la Toei a fait la série Spider-Man,
est-ce qu'on a vu le robot
qu'ils ont pris la tête à l'époque?
On a vu le robot Spider-Man.
Le robot. Il n'y a pas eu du robot washing là.
Ça ridicule, c'est
il semble cependant que Stan Lee avait demandé à ce que la série ne sorte pas du Japon. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit même de la diffuser et de l'éditer en France.
Tu verras la série.
C'est très très compliqué niveau légal de la sortir du Japon, effectivement, cette série.
Alors que c'est un chef-d'œuvre.
Oui, mais.
Évidemment.
Je vais poser une autre question, c'est la récupération de la pop culture japonaise par les Américains, justement.
Oui,
c'est donc le débat qu'on va.
C'est à peu près le Monsterverse et tout ça avec
Kong et.
Alors du coup là, on peut peut-être introduire en se demandant si effectivement on a l'impression là depuis le début de l'année, depuis quelques mois avec les annonces de manga, que c'est un phénomène qui est très récent à Hollywood de plonger dans des mangas, de plonger dans un remake, un reboot de Godzilla. Or c'est quelque chose qui semble exister depuis très longtemps. Je ne sais pas si quelqu'un veut me dire.
Je connais pas assez l'histoire là-dessus.
Kefren.
Pour la récupération de la pop culture japonaise.
Ça date de quand, Maître Kefren?
Peut-être pas faire un historique exhaustif parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes pour.
Non, mais moi je serais intéressé de savoir.
Les années 50, hein.
Moi j'ai l'impression que c'est les 7 mercenaires qui lancent un peu avant.
Même avant.
Non, mais la conclusion, c'est que ça date.
Bah avant, on avait quand même un remontage du premier Godzilla avec un acteur américain, quand même. Donc, c'est une façon de raconter la même histoire, mais en incluant un personnage occidental. Raymond Burr, tout à fait. Perry Mason. En fin de compte, on gardait l'esprit du film original, mais on restructurait le récit autour d'un point de vue occidental.
Il y avait aussi la même chose pour. On n'a pas rajouté de personnage, mais il y avait un remontage, c'était les Baby Cart, où ils avaient.
Oui,
Shogun
Assassin.
Une espèce de remontage un peu plus efficace. Enfin,
Shogun Assassin.
Entre à l'américaine.
Et puis personnellement, je préfère qu'ils assument complètement ce changement de personnage plutôt qu'ils fassent un truc dégueulasse comme on a vu dans les années avant, où on prenait des acteurs américains, on leur mettait
du maquillage
à la con. Il y a quand même John Wayne qui a joué. Qui a joué Gengis Khan, donc
là en fait on est dans la vraie définition du whitewashing.
Non, mais voilà, là
dans une époque ça, en fait où on mélange tout dans le whitewashing, j'ai lu des articles où on parle de tout et n'importe quoi, du chanteur de jazz à Death Note, et du coup ça c'est la vraie définition du whitewashing.
Là c'est du whitewashing, et des fois c'est, enfin moi je me souviens d'un, enfin ça fait aussi du whitewashing, je me souviens d'un épisode de Supercopter où le héros, je sais plus comment il s'appelle, qui pilote son hélicoptère a eu un gamin pendant la guerre du Vietnam avec une Vietnamienne, et donc il est censé être métis, sauf qu'il se trouve que c'est un blondinet et qu'ils lui ont mis du mascara pour faire les yeux bridés. Donc,
je reviens à une période beaucoup plus récente, mais qui, moi, m'a marqué positivement. Je ne regardais aucun film asiatique avant de regarder la version américaine de Ring. Personne n'avait râlé à ce moment-là.
Oui, mais là, c'est une vraie adaptation. Voilà. Tout a été
comme Death Note quand vous avez
vu. On a juste vu un tir pour
Death Note. Non, mais moi, j'ai rien dit. Mais là, c'est une vraie voilà, c'est une transposition.
Et bien, mine de rien, ça m'a... un an après, j'ai regardé l'original.
Comme beaucoup de gens. Hein.
Ouais.
Et puis là,
il y avait... C'est ça qui m'a fait découvrir, pas que ça, mais c'est ça qui m'a fait plonger aussi dans le cinéma asiatique.
Il y avait l'argument de base de dire que c'est une adaptation de bouquin aussi pour un peu dédonner le truc, même si le film... prenez l'original comme base, essayez de le dupliquer le plus
après, possible. Après, c'est assez différent, c'est quand même très différent de l'original, mais moi qui ne connaissais pas le cinéma asiatique, j'ai bien fait de commencer par la version américaine, parce que je pense que la version japonaise m'aurait complètement perdu. Mmh. Il est comme...
C'est pas le même rythme.
C'est particulier. Je crois qu'à première vision, je n'ai pas du tout aimé.
On en parlait justement quand on avait eu le débat sur Ghost in the Shell, il y a une explication rationnelle dans le ring de Verbinski sur cette histoire d'onde qui passe par télévision, etc. Et donc c'est comme ça que Samara arrive à exister. Qui n'existe pas du tout.
Dans la version
japonaise.
Mais quoi qu'il en soit, en fait, ce débat qu'on a, en fait, il date d'il y a pas un an, en fait. On ne s'est jamais posé la question.
Parce qu'avant, c'était plus problématique, parce que je pensais quand Alex a parlé de... Supercopter, en fait, ça virait même au racisme.
Sur le Black Machine, tu veux dire, on a
Blackface, un peu,
il me semble. Poser la question dans les années 70 sur la représentation des Indiens, notamment dans le cinéma américain. Enfin, il y a eu plusieurs débats quand même.
Par exemple, tu as un film, un classique, c'est Diamant sur canapé. Il y a le voisin japonais de Redburn, c'est Mickey Rooney, mais qui joue le japonais caricatural, grimé, enfin n'importe quoi. Qui plombe le film. Quoi. Là, c'est du racisme,
alors,
carrément.
Du coup, au-delà du whitewashing, est-ce qu'il y a quelque chose de différent quand on annonce les projets cette année, quand on voit que dans Kong Skull Island, il y a une scène de post-générique avec Godzilla à la fin, qu'il y a des adaptations de manga qui sont annoncées
Moi, je dis juste que, au moins, maintenant, les Américains assument le fait qu'ils adaptent des œuvres japonaises. C'est genre, c'est pas juste... Ils essayent pas de faire un film qui adapterait plus ou moins lointainement l'œuvre japonaise ou essayeront de faire un clin d'œil. Enfin, la différence aujourd'hui, par exemple, c'est que aujourd'hui, je pense que.
Mais ça ne date pas d'il y a une quinzaine d'années déjà
Mais non. Parce que justement, j'allais dire, par exemple, Aronofsky, je pense qu'aujourd'hui, il aurait pu faire un film Perfect Blue au lieu de faire Black Swan, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait pu faire son film Perfect Blue.
Ouais, mais pourquoi c'est devenu un phénomène de mode, du coup?
Maintenant, c'est qu'en fait, je pense que c'est à cause des générations qui, eux, ont totalement accepté que la pop culture japonaise était omniprésente. Ce qui n'était pas le cas, peut-être, il y a 10 ans ou des choses comme ça. Peut-être même au niveau des gens qui prennent la décision, etc., ils sont plus jeunes.
Ça a mis du temps à s'infiltrer.
Voilà, et que maintenant, ils acceptent le fait d'avoir des œuvres qui viennent du Japon, que c'est des japonais dans le cinéma américain.
Yes.
Justement, en fait, tu parles de Perfect Blue et de Black Swan. Au moins, Black Swan, malgré le fait que ce soit quand même des scènes pompées plan par plan, qu'il ait même racheté les droits pour faire le film, et que effectivement, le film soit très inspiré, le film est très inspiré. Ce n'est pas un remake, n'est pas une copie.
Et ça a toujours existé dans l'histoire du cinéma.
Voilà. Et je commence, et là, en fait, je t'avoue que c'est vraiment le Monsterverse m'a foutu une claque dans la gueule. Genre, ça sert à quoi, en fait, de faire Godzilla, de faire Mothra, de faire Gamera?
Alors, le Monsterverse, donc là tu parles de Kong Skull Island.
Voilà,
c'est vraiment financier.
Et du coup, il y a Gamera, Mothra qui arrive, et je suis là, mais il y a Gamera, Mothra, il y en a 45. Et ça sert à quoi d'en faire un? Juste parce que l'américain, vous avez vu la flemme de mater des films sous-titrés, quoi. C'est pareil, c'est comme Hot Boy, c'est comme le remake qui va arriver de Je rencontrer le diable, c'est la même chose, c'est juste en fait de la flemme de mater des films.
Non,
c'est pas une question de flemme, c'est une question de culture, c'est-à-dire que les Américains ne sont pas foutus de voir autre chose. Non, mais ils sont pas foutus de voir autre chose qu'un film américain. Mais ça, c'est culturel. Globalement, à part, sincèrement, je peux citer deux. Enfin, à part, effectivement, il y a quelques films français qui marchent aux États-Unis. Mais la plupart du temps, si tu veux qu'un film français marche aux États-Unis, faut faire un remake, c'est tout. T'as Intouchable, il y a le remake qui est en cours.
Je trouve que c'est
alors il faut que ce soit la carte postale, genre Amélie Poulain.
Elias, là, comme l'a dit Kefren, on parle pas de remake, ça va être Godzilla qui a déjà été remaké, il y a déjà plusieurs adaptations américaines qui va être dans un univers américain qui est l'univers de Skull Island. Du coup, c'est pas, on n'est pas dans, dans le cadre du remake, on est dans le cadre d'intégration culturelle d'autres éléments pour faire un univers.
Puis là, on rachète des créatures, on ne rachète pas des personnages humains. Donc là, le monstre, tu peux le transposer où tu veux. Et dans le film de Gareth Edwards, ils insistaient bien sur les racines japonaises du personnage pour un peu se dédouaner du truc. Il dit bon, voilà, vous voyez, on a quand même un peu respecté.
On a quand même de, entre Hideaki Anno qui a fait le dernier Godzilla et le Godzilla américain de Gareth Edwards, on a deux propositions qui sont très très différentes.
Mais alors que le film de Anno limite redonne une légitimité américaine au personnage, curieusement. Ouais, non, mais en fait, c'est un... il s'appelle Godzilla, il s'appelle pas Gojira. Limite, il y a un rapport inversé par rapport au nom, à la prononciation des personnages, qui est assez intéressant.
Oui, en fait, je serais comme exemple. Pour moi, le problème, c'est pas je parle du Monster Blast comme exemple. Je parle des remakes qu'il y a eu récemment. Je parle du remake qui va arriver bientôt, et j'ai rencontré le diable qui arrive qui est en préparation.
Ouais, non, mais ça fait des années qu'il est en préparation. Celui-là, c'est comme Akira, quoi.
C'est comme Lady Vengeance, c'est comme. Enfin, il y a plein de mais qui va. Mais qui, du coup, un jour, il y aura un trailer, il va arriver, ouais, c'est quoi cette merde, quoi.
Et je peux pas en avoir. Pas, parce que Old Boy, autant c'était un remake complètement inutile et vain, parce qu'il reprenait scène sur scène, en fait. Mais on peut avoir une adaptation, en fait, qui soit pas un remake pompé. On sait, tant qu'on a pas. Enfin, là.
Il me semble, par exemple.
Je suis un peu l'avocat du diable, mais tant qu'on n'a pas vu à quoi ça allait ressembler.
Il me semble, sur cette question des remakes, par exemple, Kim Ji-woon, qui a réalisé J'ai rencontré le diable, est en train de réaliser un remake de Jinro en prise de vue réelle encore.
Lui aussi, c'est une traîne depuis.
C'est aussi con, tu vois.
Pourquoi pas avec l'histoire de la Corée, en plus Jinro, il y a des choses à faire.
Moi, je suis dans les théories pourquoi être contre, en fait.
Jinro, c'était déjà Cerberus Panzer Corps.
Si tu veux refaire un vision. En fait, limite, je préfère un. Presque personnel, mais je préfère un réal qui ment, comme Aronofsky, qui maquille un remake.
C'est vrai que c'était parti de.
Qui maquille un remake et qui reprend les idées qu'il aime d'un film pour faire son film à lui quand même. Il arrive à faire quelque chose de nouveau plutôt qu'un mec qui prend le titre,
Je suis d'accord, mais là on parle de films dont on ne sait pas du tout à quoi ils vont ressembler, en fait.
Non, mais je parle pas de la ressemblance, je parle juste du principe.
Ça existe depuis la nuit des temps, les remakes.
Ça existe depuis la nuit des temps.
C'est annoncé comme des remakes, mais un remake peut très bien être
une histoire de la
adaptation.
De la transition.
Le remake, c'est le terme simplificateur qu'on utilise, même pour adaptation, en fait. Il se peut que le remake de J'ai rencontré le diable soit une adaptation, on n'en sait rien, en fait.
Et puis parfois, on peut être curieux de ce que ça peut donner à la sauce américaine de certains matériaux. Il y a plein de mangas, je serais curieux de voir que Monsters avec un thriller, avec un bon réel, qui le ferait en version américaine. Pourquoi pas
D'ailleurs, c'est Adam Wingard qui va réaliser le Exo de Vivre.
Oh putain.
Ah bon?
Bon, j'arrête pas, j'en ai marre.
Tu l'as tué,
là, c'est bon.
Kefren.
Ah, tu l'as tué, là.
Concernant le Monster
Elias, il en fait,
Elias. Concernant le Monster de Elias, que Elias disait justement, moi je trouve ça inutile parce que les monstres qui convoquent justement. Je peux parler de la fin de Kong ou...
On en parlait.
Ouais. On a tous vu.
Alors, la scène post-générique de Kong, justement, on montre qu'il y a différents monstres dans Godzilla, Mothra, King Ghidorah, etc.
C'est dans Mothra.
Et justement, c'est des monstres qui sont complètement inconnus en Occident. Vous demandez aux gens qui est Gamora, qui est King Ghidorah, personne ne sait. Donc je pense que ce serait bien que ce film-là, justement, révèle l'existence au public occidental de tout un genre du cinéma japonais qui est complètement occulté, même de l'histoire du cinéma.
C'était le cas avec Ring, par exemple.
Mais voilà, Ring a révélé toute la jure, c'était l'iceberg.
Mais c'est ce qu'on... Bah justement, c'est l'avantage, en fait, de toutes ces adaptations.
Et je pense que c'est intéressant pour ce cas-là.
Et puis même, à un moment donné, quand tu es dans un univers de pop culture que tu adaptes, tu fais un film sur Batman... Tu vas amener le Joker, tu vas amener machin, tu vas pas recréer des monstres. Grâce à toi, ça l'avait fait, bien sûr, avec les mutos, mais là, bon, bah, tu fais ton film Batman, tu vas amener Commissaire Gordon, Robin et tout ça, donc là, c'est normal que tu aies Rodan, King Ghidorah et Mothra, tu vois.
Enfin, je t'assure que ma soeur a vu Ring de nouveau et s'en fout, c'est une Nakata. Hein. Je dis ça, voilà, c'est bon, juste ça.
Je sais pas si elle écoute ce soir, mais elle l'appréciera.
Mais on va
faire dernière question. Donc, il y a plusieurs adaptations qui sont en cours, en tout cas les studios les ont annoncées. Il y a Death Note, c'est sûr qu'on va le voir le 25 août. Depuis 10 ans, on parle d'Akira. Il y a eu un nouveau rebondissement avec un nom de réalisateur qui a été donné sur Akira.
Jordan Peele.
Il y a 5 ans, on parlait de Zac Efron pour jouer à Kira.
Et on a parlé de Christopher Nolan.
C'est Capri Vé aussi.
Ezra Miller, ça
c'est on a Gum qui devrait arriver par
contre. Oui, ça c'est sûr, Robert Rodriguez.
C'est Robert Rodriguez, mais donc
ça peut être.
Mais arrêtez, il y a un Montréal de merde.
J'avoue que ça c'est
craignos.
C'est un gros
mauvais,
Rodriguez.
Donc voilà, au moins on sait que le film sera en 3D.
Super!
En 4D avec Odorama!
On va devoir rajouter 3 euros.
Il y a aussi l'attaque des titans, Naruto qui ont été achetés. Alors, ma dernière question, on va peut-être finir par un tour de table. Est-ce que vous pensez que ces films, on va les voir un jour? Et est-ce que finalement, vous les attendez, Alex?
Alors, moi je pense qu'on les verra un jour, mais pas tout de suite. Parce que de toute façon, vu les résultats de Ghost in the Shell, ils vont peut-être attendre un petit peu. Ça va peut-être les calmer. Et puis sur Aka, on n'est pas à 10 ans près pour le voir débarquer. Donc pour le reste, il faut voir ce que ça donne. Très sincèrement, pour moi, Naruto en prise de vue réelle, ça serait dégueulasse.
Déjà le manga à la base, à la fin,
c'était n'importe quoi. Et puis après c'est ça le truc. Donc on les verra un jour parce que il y a un jour quelqu'un qui va se dire ça va rapporter de l'argent. Et voilà. Après que ça soit bon ou pas, c'est un autre débat. Mais on a bien eu Dragon Ball Evolution, on a bien eu Street Fighter, on a bien eu Mortal Kombat, on a bien eu Super Mario Bros.
C'est une époque qui est révolue quand même.
Non mais c'est une époque révolue, mais c'est des films quand même qui ont existé, qu'ils soient bien ou pas.
C'est pas si vieux un Dragon Ball Evolution.
Mais bon. Je pense qu'on les verra et en fait que ça prendra peut-être plus de temps pour qu'ils sortent, le temps de digérer chaque échec. Non mais c'est vrai en fait. Si après un échec d'adaptation, enfin après un échec d'adaptation, on va pas ressortir un film dans les 6 mois. Mais ça se digère un échec. On va se dire bon là c'est bon, là on est dans le bon timing.
Par contre, il suffit qu'il y en ait un qui marche et là on en a pour comme le Marvel, on en a pour.
Après 15 ans. Moi j'avoue que je suis curieuse de voir ce que ça peut donner en fait. Je vais.
Moi je suis anti moi.
Il y a Yagen qui sort, enfin Akira, si jamais un jour il arrive à sortir des tiroirs, il sort, j'irai le voir. Juste, même si c'est pour dire après que c'est une merde. Mais
moi, par contre, j'irai pas voir Akira.
Ah, putain,
mais tu mens, c'est très bien.
Non, parce que les Américains ne peuvent pas, moralement, dans l'absolu, adapter Akira.
Mais tu iras le voir quand même, parce qu'ils ont loupé
le problème. En plus, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'ils arrivent quand même, enfin, les Américains. Comme tu dis, ils arrivent quand même à faire des très bons remakes. Il y a quand même
ils arrivent à faire des bons films.
Et puis ils arrivent à faire des bons films aussi. Et puis de toute façon, je veux dire, on peut pas dire que.
Non, mais dans la démarche de l'entreprise adaptée Akira pour les Américains, c'est une œuvre justement qui est inscrite dans la dette du Japon post-Seconde Guerre mondiale qui est causée par les Américains. Genre, Akira, ça parle de.
Quand
les
Américains viennent là-bas.
Le problème, c'est que s'il y a Akira. Ils vont pas le filer à Fincher ou à Villeneuve, ils vont le filer à Colin Trevorrow qui a fait Jurassic World. Ils vont
pas de malheur.
Ils vont filer à un pauvre mec et le film va être pourri et voilà. Les Américains ne respectent pas les projets qui ne sont pas de.
il va revenir souvent celui-là.
Bah c'est là, pour l'instant, c'est Warner. Donc effectivement, Warner.
Tu vois, moi je le sens tellement. Tu vois, d'ailleurs, on parlait de Monster, je le sens tellement le Monster par Colin Trevorrow ou je sais pas quoi, et ça va être affreux.
C'est Del Toro qui doit produire. C'est Guillermo Del Toro qui produit.
Ça veut rien dire. Elias, tu iras le voir quand même.
Oui.
Bah voilà.
Pas moi.
Non mais Kefren,
on te fera tellement chier que tu viendras avec nous.
Pas John Woo.
John Woo.
Bien aux US.
John Woo.
Martin, on t'entend pas beaucoup sur ces futures adaptations de manga.
C'est moi avec Pizza 4, ça pose pas de problème.
Je vais les voir, mais bon voilà, je ressors souvent très déçu. Donc voilà, ça m'intéresse pas plus que ça.
Fabien.
C'est un peu la même chose. Mais c'est vrai qu'ils s'attaquent toujours à des œuvres emblématiques qu'ils peuvent pas prendre.
En même temps, c'est les plus connus. Mais c'est ça.
Mais tu dis, il y a aucun réel qui va prendre une petite série de manga et qui va dire tiens, ça pourrait faire un truc qui marche.
Ce n'est pas un nom connu. Ils ont besoin d'une franchise.
Il y a le market.
Sauf que
ils ont besoin d'une marque, c'est cette tiration, les consommateurs.
Ceci dit, on a un contre-exemple, c'est Edge of Tomorrow.
Ah oui,
qui n'est pas si connu en Occident, qui n'est même pas connu du tout. Qui l'ont vraiment adapté, pour le coup, ils ont Edge of Tomorrow.
Non, c'est un roman.
C'est un roman et un manga.
Non, mais dans ce cas-là, si on parle des romans, on
en. Non, mais c'était un manga aussi, je sais pas si c'est
écrit comme base. Et pour le coup, le film n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité. C'est quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Mais ça va marcher aussi.
Alors, Elias, pour conclure.
Mais rien qu'un point de vue japonais, en fait, je crois, pourquoi est-ce qu'au final, tous les trucs de grandes séries, c'est-à-dire Akira, Ghost in the Shell, Naruto, Fullmetal Alchemist, Death Note, c'est pourri. Et au final, le seul film de manga, le seul film de manga dont on se rappelle sorti cette année, c'est Hime Hanole. C'est-à-dire d'un tout petit manga qu'on a vu au festival, qu'on a aimé.
Là, tu es parti sur une adaptation japonaise.
Oui, mais je parle du Japon, là. Je parle en général, Japon, Occident, etc.
Mais ça mérite un podcast de 3 heures, les adaptations.
Et qu'est-ce qui réussit au final? Au final, j'ai l'impression que les adaptations qui marque le plus et qui arrive le plus, c'est les tout petits mangas que personne ne connaît, c'est Imizu, c'est Imizu.
Mais le problème de ça.
Et Kenshin, tu vois, c'est petit.
Non, non, c'est vrai que c'est
un problème. Il y a Kenshin, il y a
ça, c'est un problème. Ici en France,
le problème surtout, c'est que t'as des adaptations live de mangas au Japon. Il y en a pratiquement toutes les semaines.
T'inquiète, je sais, c'est box office. Il y a que ça tout chaque fois. Chaque semaine, j'en
parle. Non, mais bien sûr.
Il y a plus de réussite que juste Hime Hanole si on considère la production japonaise.
Donc, alors après, oui, si
on parle commercialement, oui. Alors après, ça a marché, et voilà. Mais
alors après, oui, mais alors après, et puis c'est des films qui sortent pour le Japon, au Japon, et qui sortiront jamais.
Je parle artistiquement, je parle pas commercialement. Commercialement, évidemment, que Naruto s'est cartonné.
Du coup, on refera un podcast entier parce que ça mérite un débat entier sur les adaptations de manga au Japon.
Et de romans, si tu veux.
Aux Américains d'arrêter de faire ça, et s'ils ont trop d'argent, ils peuvent m'en donner.
Allez, juste un pour conclure.
Conclusion.
Bon, en fait, moi je dis, il n'y a rien qui soit inadaptable ou rien qui soit sacré. Il suffit d'avoir des gens doués et puis de vraiment réadapter réellement la chose.
Ouais,
et puis il n'y a rien qui est intouchable. Il y a Speed Racer. C'est un exemple de. Oui. Pour le coup, ils ont vraiment réapproprié la chose. Il n'y a rien d'intouchable. Il suffit d'avoir des gens doués et puis faire un vrai travail de réadaptation. Mais il n'y a pas de vache sacrée pour moi.
Bravo, Justin.
Je suis d'accord. Merci, Justin. Et du coup, j'attends toujours à l'adaptation de Cowboy Bebop avec Keanu Reeves. See you, Space Cowboys. Ok, 3, 2, 1, let's jam.